Chapitre 8. Quelques moments après la visite de Gilbert Hamon, un prêtre avait été mandé auprès du baron. Ce fut l'abbé Jouan qui vint. Les deux hommes eurent ensemble une longue conférence et le soir même, Isoline, à l'aide d'une ruse, fut éloignée du château. L'idée que celle qu'il détestait allait lui échapper et pourrait vivre heureuse avait mis le baron hors de lui. Il n'avait pas prévu ce fait si vulgaire d'un amant qui viendrait la lui disputer. Absorbé dans son chagrin, il avait oublié bien des défenses, des grilles, des verrous. C'était miracle qu'elle ne se fût pas enfuie avec cet imbécile d'honnête homme. « Le bonheur pour elle, ce serait trop fort, » disait-il à l'abbé attentif. « Il faut qu'elle expie. »« Quel est son crime ?»« Son crime, » dit le vieillard en pâlissant, « Armelle est morte. » Sa mère, elle l'a tué en naissant. Le prêtre tendait le cou, avide de ce secret qui, comme beaucoup d'autres, l'avait toujours intrigué. L'enfant est innocente, dit-il. Innocente! Mais le baron, dont le visage s'était empourpré, se calma tout d'un coup. Il ne s'agit pas de cela. Mademoiselle de Kerdréol est mineure et je désire qu'elle entre au couvent. La fortune de sa mère était importante, moi-même je ne suis pas pauvre et je ne peux pas la déshériter, elle sera donc fort riche un jour. Vous avez tout un an pour acquérir ses biens à l'église. » L'abbé fut ébloui. « Mais, dit-il, nous vivons, malheureusement, à une époque où la contrainte est dangereuse. Il vous reste la persuasion. Si la vocation n'y est pas, faites-la naître. » L'abbé Jouan en référa à ses supérieurs qui lui ordonnèrent d'être à la fois prudent et habile. Au couvent, durant les premiers jours, Isoline eut des accès de fureur qui firent craindre pour sa raison. Elle ne mangeait pas et la nuit, il fallait la garder à vue. Les consolations doucereuses des bonnes sœurs finirent par l'apaiser et elle, qui ne connaissait pas l'hypocrisie, conçut même un espoir. En grand secret, elle écrivit une lettre à Gilbert, lui disant qu'elle était plus que jamais prête à le suivre et qu'il vint l'arracher à sa prison. Elle confia la lettre à la plus douce des sœurs, qu'elle paya d'un bijou de prix. Quelques heures plus tard, le billet était entre les mains de l'abbé Jouan. Le baron avait prévenu ce dernier d'avoir à se défier de l'officier de marine. Elle l'aime sans doute, avait-il dit. Qu'elle soit séparée de lui, elle connaîtra ainsi quelques-unes des tortures qu'elle m'a procurées. Le prêtre entra dans la chambre d'Isoline en tenant à la main la lettre ouverte. « Mon enfant, dit-il, toute tentative de correspondance avec le dehors est inutile. Il faut vous soumettre à la volonté paternelle et prier Dieu de vous donner la résignation. Je veux bien cependant vous signaler le danger que courait celui que vous aimez s'il répondait à votre appel. » Alors, le code en main, il lui fit comprendre ce qu'était le détournement de mineurs, crime puni des lois et qui s'aggravait, dans le cas présent, de la captation d'une grande fortune. Il profita de l'ignorance du monde où était la jeune fille pour exagérer encore. Il la terrifia, lui fit sentir l'impuissance où elle était. « Mais quel crime ai-je donc commis pour que mon père soit aussi implacable ? » demanda-t-elle. « Vous avez inconsciemment brisé son bonheur. Votre naissance a coûté la vie à votre mère. »« Comment cela ?»« Mais... » Le prêtre baissa les yeux devant le regard éblouissant de pureté qui l'interrogeait. « C'est difficile à expliquer, balbutia-t-il, à vous surtout. »« Un crime que le criminel doit ignorer ? » dit-elle avec ironie. « Vous êtes aussi innocente que l'agneau sans tache, ma chère enfant, » dit-il. « Offrez vos peines au Seigneur et il vous consolera. » L'abbé ne s'était pas trompé en comptant sur sa révélation. Il avait spéculé sur un sentiment noble et avait parfaitement réussi. Mais la femme la plus naïve peut déjouer même un prêtre. L'amour d'Isoline, pendant ces dernières semaines, s'était exalté jusqu'à l'héroïsme. Tout de suite, elle fut résolue à sauvegarder son amie et à ne compromettre qu'elle. Elle médita toute la nuit, surprise elle-même de voir succéder à ses fureurs inutiles le calme d'une volonté inébranlable. La trahison de la sœur converse lui enseigna la dissimulation. On vit sa douleur se fondre dans les larmes et, à la chapelle, elle s'abîmait dans des prières ardentes. Un bruit, habilement lancé, commençait à circuler par la ville et arriva aux oreilles de Gilbert. Le malheureux, après avoir vainement cherché la retraite d'Isoline et perdu de rage et de douleur, se voyait cloué sur son lit par un retour dangereux de son mal. Sylvie se chargea de lui faire savoir comment on parlait de lui. On racontait que la riche héritière de Kerdréol avait été recherchée par un marin sans fortune, mais que le père était arrivé à point pour s'opposer à une union disproportionnée. « Tu voulais l'épouser ?» ajoutait Madame Aubray. « Ce n'était pas bête, cela, mais bien ambitieux tout de même. » Gilbert, qui n'avait pour toute fortune que son avenir de marin, fut mordu au cœur par cette perfide interprétation de sa conduite. Bien qu'il n'eût jamais été effleuré par la pensée cupide qu'on lui prêtait, il sentait qu'il était immobilisé, cette pensée une fois exprimée. Et c'était bien là ce que voulaient ses adversaires inconnus. Il était bien décidé cependant à faire l'impossible pour reconquérir la jeune fille, à repousser toute fausse honte. Elle l'aimait. Est-ce que tous les préjugés des hommes ne tombaient pas devant cette certitude ? À quelques mots de Sylvie, toujours à l'affût des moindres bruits de la ville, il comprit qu'Isoline était à Dinan dans un couvent et très probablement chez les sœurs Ursulines de la rue des Halles. Dès qu'il put marcher sans trop de vertige, il résolut de tenter quelque chose, de voir à tout prix la recluse. Les murailles et les grilles n'étaient rien pour lui. S'il pouvait apercevoir Isoline, échanger un signe avec elle, rien de plus aisé que de la rejoindre. Son congé touchait à sa fin. L'ordre de départ lui était arrivé déjà et on lui mandait que son bâtiment viendrait dans les eaux de Saint-Malo. Mais il était bien décidé à donner sa démission, à briser sa carrière, plutôt que de s'éloigner sans avoir revu celle qu'il considérait, en dépit de tout, comme sa fiancée, sans avoir au moins échangé avec elle une promesse et une espérance. Il sortit une nuit dans la ville déserte et gagna la rue des Halles. Le couvent, de ce côté, est enclavé entre les maisons voisines, dont rien ne le distingue qu'une croix sculptée dans la muraille, au-dessus de la porte et des barreaux aux fenêtres. Il jugea le lieu imprenable sur ce point et chercha à se rendre compte de la disposition intérieure, de l'étendue des jardins qui, sans nul doute, attenaient au couvent. Il contourna le pâté de maison et prit la rue gothique de Gerzual, qu'un récent orage changeait en rivière. Là seulement apparaissaient des arbres dépassant une haute muraille. « Voyons toujours, » se dit-il. Quelques crevasses, des mousses robustes, la moindre saillie, lui servirent de point d'appui. La lune, éclairant à demi entre les nuages, lui permit d'éviter les verres cassés qui hérissaient la crête du mur. Lorsqu'il eut sauté de l'autre côté du mur, on ne sait quoi de rigide et de froid lui fit comprendre qu'il était bien dans le jardin du couvent. Il marcha avec précaution dans les allées sablées, bordées de buis, autour des plates-bandes en forme de croix et de cœur. Il atteignit les bâtiments et vit quelques faibles lumières à différentes fenêtres. Laquelle était celle d'Isoline ? Tout à coup, un gros dogue aboya furieusement en tirant sur sa chaîne. La sœur tourière de garde, éveillée en sursaut, sortit dans la cour, vit cet homme et poussa des cris perçants. Gilbert dut s'enfuir comme un malfaiteur, tandis qu'en signe d'alarme, la cloche tintait derrière lui à coups précipités. Le lendemain, l'abbé Jouan vint chez Madame Aubray et demanda un entretien à Gilbert Hamon. « Vous avez fait cette nuit une dangereuse tentative, commandant, lui dit-il avec un sourire doucereux et un regard fuyant. Et vous ne vous rendez peut-être pas bien compte de la gravité de votre effraction. » Mais nous ne voulons pas la mort du pêcheur et je vous apporte des paroles de paix. » Gilbert, plein d'inquiétude, gardait le silence. « Vous vouliez voir Mademoiselle de Kerdréol, continua le prêtre. À quoi bon passer par-dessus les murs au risque de vous tuer ? Il était plus simple de frapper à la porte, on vous eût ouvert. La règle du couvent n'est pas si féroce. Mademoiselle Isoline sait que vous partez bientôt. » Elle désire aussi vous voir, et voyez quelle est notre faiblesse, nous voulons bien favoriser cette entrevue, espérant que vous serez discret à l'insu même de monsieur le baron. « Vous me laisseriez la voir ?» s'écria Gilbert, partagé entre la joie et une appréhension de quelque nouveau malheur. « Elle vous attend. Vous m'avez, un jour de danger, accordé gracieusement une place dans votre bateau. Je suis heureux de pouvoir vous être agréable à mon tour. » Partons !» La porte du couvent s'ouvrit devant l'abbé, qui introduisit Gilbert dans un parloir nu, bien ciré, avec des rideaux de coton blanc aux fenêtres. Et il le laissa seul un instant. Le jeune homme avait le cœur horriblement serré, et l'attitude d'Isoline, lorsqu'elle entra, lui glaça sur les lèvres les mots passionnés qui s'y pressaient. Elle était tout en blanc, avec le voile des novices, blanche comme ses blancheurs, et d'une froideur de statue. Il se fit un silence, pendant lequel on entendit battre les artères. La jeune fille tenait les yeux baissés. Elle dit enfin d'une voix lente que Gilbert ne reconnut pas « J'ai voulu vous revoir, mon frère, afin de vous dire un dernier adieu. Je renonce au monde pour lequel je n'étais pas faite, la grâce m'a touchée. Dans un mois, j'entre en religion. » « On vous a contraint, Isoline, ce n'est pas vous qui parlez ainsi !» s'écria le jeune homme épouvanté. « Un premier amour ne s'éteint pas si vite au cœur, et vous m'aimiez. Vous, si spontané, si loyal, vous ne trahiriez pas aussi cruellement. Non, je ne vous crois pas, je ne reconnais pas votre pensée. Dites un mot, faites un geste, et je démasquerai les faussetés, les terreurs que l'on tisse autour de vous, je vous arracherai d'ici. » Elle leva les yeux, et un éclair qu'elle ne put retenir en jaillit. Mais elle reprit avec le même calme. J'ai parlé librement et rien ne contraint ma volonté. Pardonnez-moi si j'ai troublé votre vie, oubliez-moi. J'ai bien compris mes devoirs à présent, ma résolution est inébranlable. Allez, mon frère, partez, je prierai pour que la mère vous soit clémente. Une pensée horrible traversa l'esprit de Gilbert. On lui avait persuadé, peut-être, à elle aussi, qu'il avait recherché pour sa fortune. Il sentit de la glace lui tomber sur le cœur. Toute insistance devenait honteuse. Un mur d'or se dressait entre elle et lui. Il recula, hagard, les yeux fixés sur cette figure pâle et comme sculptée dans ses voiles, sans un mot, sans un adieu. Puis la porte retomba et il s'enfuit. Dès qu'il fut parti, Isoline se laissa tomber anéantie sur une chaise et éclata en sanglots. L'abbé Jouan vint vite à son aide. « Vous avez été admirable, ma fille, dit-il, j'ai tout entendu. Vous êtes maintenant délivrée de ses poursuites, il partira. Oubliez les 20 soucis du monde et songez à Dieu. » « Le sacrifice est fait maintenant, dit-elle. Je ne vous demanderai plus qu'une seule grâce avant d'entrer en retraite. Je voudrais revoir encore une fois Marie Damon, la nourrice dévouée qui m'a élevée. » Marie vint dans toute hâte et fut prise d'un tremblement convulsif lorsqu'elle vit son enfant bien-aimé sous le suaire des religieuses. « C'est le dernier coup, murmura-t-elle, tandis que ses yeux caves s'emplissaient de larmes. Isoline la prit dans ses bras, l'apaisa sous ses caresses et lui dit quelques mots à l'oreille qui subitement séchèrent les larmes. Mais, se sentant observée, elle dit tout haut « Ne pleure donc pas, je serai très bien ici, c'est moins triste que mon vilain château. Viens voir le jardin, il est très joli et de ma cellule, on a une vue charmante. » En somme, elle n'aimait pas le capitaine, se disait l'abbé Jouan en la regardant entraîner Marie presque gaiement et lui montrer les fleurs des corbeilles. Au plaisir d'avoir conquis à l'église une fortune considérable, se joignait chez le prêtre celui de voir une beauté aussi parfaite échapper au monde et à l'amour. Il était de ceux qui aiment à renverser une coupe qui n'est pas emplie pour eux.